Alors, merci de m'accueillir. Je remercie Jean Boschko. Non, merci. Avec son théâtre Épouvette et puis les associations locales. Pourquoi ce film? Eh bien, au mois d'août, je passais à Corbigny et je rencontre Jean, dont le prénom en ukrainien est Ivan, hein, puisque en ukrainien, Jean se dit Ivan.
Vous avez vu, j'ai l'habitude de
la vanne. Voilà. Et il m'a demandé effectivement de présenter un film ukrainien sur le thème de la coercition, du mensonge. Et j'ai pensé tout de suite à Ivan parce que l'auteur de ce film, qui date de 1932, est Alexandre Dovzhenko, ce grand cinéaste soviétique d'origine ukrainienne, qui a réalisé un film dont le titre a fait le tour du monde, c'est La Terre. Donc en 1930, peut-être avez-vous vu ce film, soit à la Cinémathèque française ou dans d'autres cinémathèques, voire sur les chaînes de télévision. En tout cas, ce premier film devait être sonore. Il ne l'a pas été parce que les studios de Kiev à l'époque, en 1929, n'étaient pas encore équipés. Donc il tourne ce film en 1932. Ivan, c'est bêtement l'histoire d'un jeune paysan qui va monter quelque part au nord de Kiev, où se construit un barrage. Et là, il va bien sûr faire la connaissance avec le travail qui est apparemment très très dur, et va terminer son aventure eh bien, à l'école. Il va retourner à l'école pour devenir géomètre ou ingénieur. Mais le film se terminera par autre chose. Je présente ce film pour la première fois en France, parce que je vais faire un peu le tour de l'Hexagone, et je suis très content d'être parmi vous. Bon, c'est vraiment insolite. Normalement, je considère que la projection de ce soir est confidentielle, et en même temps, elle est celle d'un ciné-club. Pourquoi ? Parce que cette version que j'ai, on ne pourra jamais l'acheter. Elle n'est donc donnée par le ministère de la Culture d'Ukraine aux historiens de cinéma, aux facultés, aux archives du film et à différentes cinémathèques de par le monde. Donc je pense que je fais une faveur à Ivan
et à Millet.
J'aurais pu présenter La Terre, puisque effectivement, La Terre, c'est plutôt un film bucolique, alors que Ivan est un film plutôt industriel, pas dans le sens industriel que nous employons aujourd'hui, mais ce que nous allons apercevoir à l'écran. Donc cette histoire d'un barrage hydroélectrique qu'on est en train de construire en 1932, alors que sévit en Ukraine la famine qui va faire 6 millions de morts. Donc je ne vais pas en parler trop longtemps. Nous allons découvrir cette version qui a été complètement restaurée en Ukraine. Donc vous ne verrez aucune rayure. Par contre, j'ai comparé les sous-titres, parce que les sous-titres nous seront proposés bien sûr en français, les sous-titres sont de moins bonne qualité que ceux qui ont été faits il y a 40 ou 50 ans de cela par Henri Langlois à la Cinémathèque française. Malheureusement, les personnes qui ont travaillé là-dessus ne connaissaient pas la technique donc de la traduction pour les sous-titrages, donc qui nécessite un langage plus concis. Néanmoins, je pense que la qualité donc de ce film, qui en fin de compte va nous amener à nous poser plusieurs questions, parce qu'il y a plusieurs sous-thèmes dans ce film, eh bien, je pense qu'au niveau de la qualité, de très très bonne qualité, mérite à ce que on le montre en Occident, tel que Chaplin, qui a été récemment restauré, qu'on peut acheter donc un peu partout en DVD. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure après 1h18 de projection. Ce film, pour vous raconter l'histoire de ce film, comment est né ce film? Alors, le réalisateur Alexandre Dovzhenko se trouve en juillet 1930 à Paris. Il vient présenter un autre film qui s'appelle La Terre. L'histoire de l'arrivée du premier tracteur dans un kolkhoz. Et effectivement, d'un côté, il y a les gens du Komsomol et les gens du Parti communiste qui sont contre donc les koulaks, c'est-à-dire les paysans riches. Et à l'issue donc de ce film, Dojenko est invité un peu partout en Europe, donc en Tchécoslovaquie, en Allemagne et en France. Et en France, il est interviewé par Maurice Bessy, qui sera le futur président du Festival de Cannes, si vous en souvenez bien. Et donc, il dirige un journal qui s'appelle Cinémonde. Et il lui pose la question. Mais quand vous faites vos films, à quoi pensez-vous d'abord? Quelle est votre première devise? Et Dojenko lui répond. Eh bien, si je devais choisir entre la vérité et la beauté, je choisirais la beauté. C'est vrai que Dojenko était alors en France et il ne faisait que citer Anatole France, donc ce grand écrivain que les Ukrainiens aiment beaucoup. Quelques semaines après, Dojenko rentre en Ukraine et on rapporte effectivement ses paroles donc à son chef, qui est donc président des studios de Kiev, et il lui dit « Mais comment pouvais-tu dire des choses pareilles en France, alors qu'ici, ton film a été rayé donc du registre des films à projeter les mois à venir ?» Puisque quand La Terre est sortie en 1930, elle n'a pu être projetée en Ukraine que pendant 2 semaines et 1 semaine à Moscou. Alors qu'en France, elle a été projetée un peu partout, en Allemagne aussi, et on a accueilli ce réalisateur vraiment comme un grand réalisateur au même niveau que Eisenstein ou Poudovkin. Et nous sommes en 1931, donc Dojenko pense se racheter en faisant quoi? Il va essayer de monter le Taras Bulba de Gogol. Mais monter Taras Bulba de Gogol en Ukraine, c'est très très difficile parce que c'est un personnage légendaire et qu'il y a les Polonais à côté qui nous montrerait du doigt, puisqu'effectivement, donc, ce personnage légendaire a un grand ennemi, les Polonais. Et on dit à Dojenko de faire un autre film. Et on lui propose de faire Ivan. Donc ce film, comme vous le disiez si bien, un film de propagande. Pourquoi un film de propagande? Parce que, au même moment, il y avait la collectivisation des terres, à laquelle les paysans, riches ou pauvres, étaient opposés. Donc progressivement, à partir de 1924-25, dans toute l'Union soviétique et ici en Ukraine, eh bien, on collectivisait les terres et finalement, on donnait qu'un tout petit lopin donc, de terre aux ouvriers et donc aux kolkhoziens pour se nourrir. La majeure partie donc, de ces paysans s'est opposée à Staline. Et Staline, dès 1929, a commencé à envoyer certains récalcitrants en Sibérie. Ainsi, 150 000 personnes ont été envoyées en Sibérie dès 1929. Dès 1930, la famine commence en Ukraine à se sentir. C'est-à-dire qu'on réquisitionne le blé, donc toutes les céréales, grâce auxquelles, et là on le voit dans le film, on va construire une nouvelle industrie. Et qui peut construire cette nouvelle industrie en Union soviétique? Sinon les Américains. Puisque les Soviétiques vendent le blé, bien sûr, un peu à l'Europe, mais surtout aux États-Unis, où, dès 1929, il y a une grande crise économique. Rappelons-nous donc le crash de Wall Street. D'ailleurs, on le constatera aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Si les Soviétiques ont repoussé les nazis, c'est grâce aux Américains. Tout l'armement est venu des Américains. Donc, c'est avec cet argent qu'on va commencer à industrialiser non simplement la Russie ou le Kazakhstan ou les pays d'Asie centrale, mais aussi donc cette terre d'Ukraine qui en a bien besoin. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, on va aller chercher la main-d'œuvre qui se trouve sur place. Cette main-d'œuvre qui se trouve sur place, qui est-elle? Ce sont ces pauvres paysans à qui on a volé les terres, les céréales. Ils n'ont pas de pain. Ils commencent à mourir par dizaines, voire centaines de milliers de personnes, à tel point qu'à la fin de 1933, eh bien, on comptera grosso modo un peu plus de 6 millions de morts. Donc, rien que sur le territoire de l'Ukraine. Et pendant ce temps, Dojenko est obligé de faire ce film, de tourner ce film, donc qui est commandité par le parti. À un moment donné, il laisse la réalisation à sa femme, Yulia Sonseva, qui est une actrice de cinéma et qui s'est mariée 3 ou 4 ans plus tôt avec lui. Il est complètement démotivé. Hein, on le sent qu'à la fin, tous ces personnages qui apparaissent dans le dernier épisode, que vient faire cet épisode à la fin du film lorsqu'on voit toute l'armée rouge défiler? Il n'y a aucun lien, je veux dire, entre donc le scénario du film et cette fin donc programmée. Tout simplement, on a obligé Dovzhenko d'introduire ces images de propagande, c'est-à-dire de l'armée rouge, parce que dès 1929, Dovzhenko avait dit, mais vous savez, l'armée rouge, si elle devait se battre contre les Polonais ou les Français ou les Américains, elle serait vite battue. Bien sûr, c'est arrivé très très vite aux oreilles du chef du parti. Et donc, pour se corriger, on a obligé Dovzhenko à placer cette longue séquence où on voit effectivement donc toute la cavalerie soviétique, l'infanterie, l'aviation, les blindés, etc. Il manque à ce film, grosso modo, 12 à 13 minutes, puisque les films, à l'époque, avaient 90, 95 minutes. Eh bien, au début du film, les boss du parti allaient chercher dans les villages, donc, de la main-d'œuvre. Et lorsqu'ils arrivent au village, eh bien, nous sommes en 1932, c'est la famine. À tel point que plusieurs boss du parti ont dû complètement abandonner cette idée de chercher les villageois dans les villages parce qu'ils étaient squelettiques. On ne pouvait pas les placer devant une caméra. Caméra mensonge, preneur de sang mensonge, scénario mensonge, réalisation mensonge, montage mensonge, superproduction et post-production mensonge. Donc ils ont pris, bien sûr, des Russes. Lorsqu'on voit, enfin les Russes, qui étaient un peu plus nourris, puisque ce n'est que le sud de la Russie qui a aussi donc souffert de la famine. Et donc on le voit au début, au village, quand on doit prendre au moins 100 personnes. Et puis d'autres villages donneront aussi une centaine de personnes. Donc c'est un grand bluff organisé pour montrer à tous les pays d'Europe occidentale que, effectivement, en Ukraine, en Russie et dans toute l'Union soviétique, se construit le réalisme socialiste, se construit une industrie. Et malheureusement, cette industrie, eh bien, c'est un leurre. Ce que l'on voit apparaître, c'est les échafaudages que l'on voit effectivement, ils sont réels, mais c'est 10 000 ouvriers qui travaillaient avec des pioches et des pelles. Le travelling sinusoïdal que l'on voit à un moment donné, hein, ces wagons qui passent un petit peu à travers ce barrage, eh bien, ça a été réalisé de manière très, très artisanale. Donc, ce que l'on montre là, c'est effectivement cette image que l'on doit exporter en Occident, qui, lui, doit, dès 1933, reconnaître qu'en Union soviétique, l'industrialisation est galopante. Et lorsque M. Édouard Herriot, président de l'Assemblée nationale de l'époque en France, arrive en Ukraine pour constater qu'il n'y a pas de famine, eh bien, on lui montre effectivement ses grandes réalisations. Et aujourd'hui encore, eh bien, l'Occident, et pas que la Russie elle-même, et pas que Staline, qui donc fit plusieurs millions de morts, mais nous sommes tous responsables d'un génocide. Et ce génocide n'était pas que dans la nation ukrainienne ou géorgienne, puisqu'elle était aussi au Caucase et russe, mais il y a eu aussi un cinécide. Parce qu'à partir de ce moment-là, le cinéma soviétique en général, et plus particulièrement le cinéma ukrainien, a souffert, hein, jusqu'en 1991, l'année où il a recouvré son indépendance, a souffert d'abord d'une russification, a souffert de l'idéologie, puisqu'on ne pouvait absolument pas, comme on dit, écraniser en Union soviétique, une œuvre majeure de la littérature mondiale. Ce n'était que, effectivement, des écrivains spécialisés dans l'écriture des scénarios qui faisaient du cinéma industriel et surtout donc ce cinéma de propagande. Alors, je m'arrête un peu parce que je peux continuer. Et s'il y a une question, eh bien, je lance le débat. À première vue, à première vue.
Alors, comment tu trouves le film de qualité?
Comment?
Les gens, la qualité, les gens et la photographie, sans parler de politique et tout, très bien fait.
Ah oui, alors c'est ce que j'ai dit au départ, je ne sais pas si vous êtes arrivé, c'est-à-dire que en France, comme beaucoup de cinémathèques de par le monde, nous possédons ce film qui a été vendu à la France dès 1932. Mais ces copies n'étaient pas restaurées. Dès la fin des années 80, Jack Lang, qui était ministre de la Culture à l'époque, a injecté 10 milliards de francs de l'époque pour la restauration des films donc à la Cinémathèque française et aux archives du film. À Moscou, ils ont fait exactement la même chose. Et ce que vous voyez ici, donc l'image apparemment est très très belle. Elle a été restaurée l'année dernière à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de ce cinéaste. Et moi, je suis parti à l'époque en Ukraine en tant que Français spécialiste du cinéma ukrainien. Et je passe à la télévision ukrainienne, on me fait une interview, on me demande « Mais que pensez-vous de la restauration de ces films ?» Je dis « Bien sûr, c'est magnifique, c'est très bien fait, mais je crois que nous possédons aussi de très très belles copies en France et que certaines restaurations que vous avez faites, vous, ont été faites à partir des copies russes et pas ukrainiennes. » Et donc, ça les a un peu blessés. Et si, bon, je pense que vous êtes tous de bons grammairiens, vous avez bien sûr vu qu'il y a pas mal de fautes de traduction, je veux dire, il y en a pas mal. Et actuellement, je prépare un article qui va paraître en Ukraine, où je vais juxtaposer la version qui a été faite par la Cinémathèque française, au départ, qui est très très bonne. Par contre, l'image chez elle était mauvaise. La traduction que nous avons vue maintenant, et celle que je vais proposer. Je vais prendre l'exemple, et c'est pour ça qu'actuellement je travaille sur Ivan, et je crois que Jean Bochco a eu l'idée lumineuse de me demander de montrer un film. Et à l'époque, en août, je ne l'avais pas encore vu. Je ne l'ai vu que quoi, je suis rentré quoi, il y a 3 semaines de ça, ou 1 mois de cela, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, les images de propagande, il faut absolument restaurer tous les films. Il faut montrer la vérité. Si nous continuons à cacher cette vérité, je veux dire qu'on ne saura rien. Nous, moi je me souviens, j'étais étudiant dans les années 70, on était pratiquement tous rouges, on était CGT, on était FO, les étudiants, voilà. Et moi-même, français d'origine ukrainienne, j'avais un professeur donc d'histoire du cinéma qui me disait, mais il faudrait que toi tu t'intéresses un petit peu à ce cinéma ukrainien. Et à l'époque, bon, c'est vrai que je percevais cela comme de l'ultra-propagande, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'art. L'art est mensonge. Un réalisateur, un scénariste mente. L'art est mensonge. Une caméra, elle est faite pour tricher. On peut, lors d'un montage d'un phonogramme, on peut inverser les paroles, on peut tout détruire et reconstruire. De même qu'au montage, sur une table de montage, eh bien, il est tellement facile aujourd'hui de faire de la manipulation. Donc l'art avant tout, et surtout par les soviétiques, puisque Lénine a bien dit au départ, de tous les arts, c'est l'art cinématographique qui est le plus important. Simplement, moi, en tant que, avec Jean Bochco, en tant que Français d'origine ukrainienne, je dis toujours que quand Lénine a dit ça, il a dit par rapport au cinématographe russe, il a dit ça en 1919, alors que l'Ukraine ne faisait pas encore partie de l'Union soviétique. Elle ne fait partie qu'à partir de 1922. Donc moi, dans mon histoire du cinéma ukrainien, je prétends que c'était valable que pour la Russie. C'est vrai que Lénine avait raison, il avait raison. C'est vrai que c'est un art par lequel il a... bon, le communisme a tenu pendant plus de 75 ans dans cette région. Et quand même, nous a livré de très très grands réalisateurs. Hein, on commençait par Eisenstein, Donskoy, Dovzhenko, et toute une... Bon, Tarkovsky, Muratova, bon, je viens jusqu'au cinéaste d'aujourd'hui. Donc, qui ne triche plus. Enfin, il triche en tant que technicien, mais plus avec la vérité. Je veux dire, parce que depuis l'indépendance de la Russie, de l'Ukraine ou des autres pays, on fait un travail de fond sur la mémoire, autant dans le cinéma de fiction que dans le cinéma documentaire et même expérimental. Malheureusement, il n'y a pas assez d'argent puisque nous passons d'un système qui était contrôlé par l'État, donc un cinéma d'État, vers un système de production indépendante. Voilà, la production indépendante aujourd'hui nécessite vraiment des cadres qui connaissent le métier de producteur, donc un métier à risque. Donc je m'arrête un peu, j'attends peut-être une question. Voilà.
Il y a des fois aussi, c'est tellement énorme, oui. Ça veut dire le contraire.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et Dojenko sait jongler, hein, parce que lui, au départ, c'est un humoriste, c'est un caricaturiste. Donc il sait très très bien, il connaît très très bien donc, les caractères ukrainiens. Et dès qu'il peut lancer une pique, il le fait. Et c'est pour ça que, bon, Jean, tout à l'heure, tu me disais que tu as entendu ce matin ou hier matin une phrase à propos de Dojenko. Est-ce que tu peux la poser ?
Oui, il y avait cette semaine, là, sur France Culture, le matin, à 9h, il y a une émission qui avait un rapport avec l'histoire.
Ouais.
Et puis, justement, comment on passait le film, là, ça j'ai prêté attention, parce que il y a le, donc c'est une série d'émissions sur la Russie. Et puis j'ai entendu donc que Dovzhenko, Staline aimait beaucoup Dovzhenko, à tel point qu'ils se promenaient ensemble la nuit dans Moscou, et parce qu'il aimait bien discuter avec Dovzhenko. Et donc voilà, donc c'est alors là, et là dans l'émission, il parlait de la duplicité, parce que d'un autre côté, Dovzhenko était surveillé par le NKVD et fiché, donc il y a eu des archives qui ont été retrouvées, il était fiché et surveillé de près, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, Staline discutait avec lui, et d'un autre côté, il le faisait surveiller à mort, prêt à le zigouiller, à le zigouiller à la moindre incartade.
Mensonge et vérité. C'est vrai, mais ça se passe en 1937, lorsque il y a les grandes purges en Russie, en Ukraine, dans toute l'Union soviétique, et Staline demande à Dovzhenko de faire un film qui correspondrait au film russe Tchapaïev. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un film qui exalte les partisans rouges pendant la guerre civile. Donc il y a eu le Tchapaïev russe, et Staline demande à l'époque de faire un Tchapaïev ukrainien. Donc en 1937-1938. Ce film s'appellera Shchors, peut-être que vous l'avez vu, vous avez peut-être entendu parler. Eh bien, c'est la réplique ukrainienne, donc, du Tchapaïev russe. Et à chaque fois, donc il le tourne pendant 4 ans, à chaque fois, lorsque une bobine était mise en boîte, Dovzhenko devait monter à Moscou et montrer la pellicule développée à Staline, qui lui disait, bon, bah, écoute, ça, tu vas couper ici, là, tu vas rajouter ça. Ah oui, c'est vrai que pendant ce temps, tiens, j'ai zigouillé celui-là à Leningrad, il était le copain d'un tel dans la séquence de ton film, ça, il faut absolument l'enlever. Et donc, ce double jeu, comme tu dis, effectivement, a existé jusqu'en 1943. En 1943, nous sommes après la bataille de Stalingrad, donc les forces soviétiques avancent, et Dovzhenko, lui, est colonel d'intendance dans l'armée rouge. Mais il est aussi directeur des studios documentaires de Moscou. Et à un moment donné, il dit, j'en ai marre de faire donc des films documentaires sur la guerre, Frank Capra le fait aux États-Unis, pourquoi ce soit moi, il y a d'autres opérateurs, j'aimerais faire un film de fiction. Et donc, il pond un scénario qui s'appelle Ukraine en flammes, où le héros principal, donc qui est un soldat de l'armée rouge, a le malheur de parler l'ukrainien, alors qu'il faut parler le russe. Staline réunit le politburo et donc fait venir Dovzhenko, et alors là, il lui dit, c'est parce que tu es un grand artiste que l'Occident apprécie que je ne t'envoie pas en Sibérie. Je t'ai déjà envoyé une fois, il avait fait Aérograd, ou alors j'aurais pu te massacrer sur place. Donc il a évité de justesse, Dovzhenko a évité de justesse le peloton d'exécution pour tout simplement donc ce film Ukraine en flammes. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'à la libération de Paris, il y avait un film qui s'appelait Ukraine en flammes. Et c'était pas ce film-là qui était un film de fiction, mais c'était les deux films de Dovzhenko qu'il avait fait pendant la guerre, donc des documentaires sur l'armée rouge en train de récupérer les territoires occupés par les nazis, Et les Français ont eu le bonheur donc de faire une grande publicité pour Dojenko contre Staline, enfin pas contre Staline, parce qu'ils étaient quand même assez cocos à l'époque. Et donc Ukraine en flamme, et cette affiche ben, aujourd'hui se trouve à la Cinémathèque française, et dont nous avons réussi à faire une très très belle copie pour la Cinémathèque ukrainienne. Voilà. Donc d'un côté, il y a le Staline, le petit père du peuple, très rassurant, et d'un autre côté, le Staline avec donc un couteau entre les dents. Et malheureusement, ce cinéaste mourra très très jeune, il mourra à l'âge de 63 ans, en 1956. En novembre 1956, il devait commencer un film qui s'appelle « Le poème de la mer ». Et au même moment, Henri Langlois, qui est donc le président, le directeur de la Cinémathèque française, eh bien, l'invite à Paris pour faire une rétrospective de toute son œuvre, donc en même temps que Chaplin et Rossellini. Et Dojenko devait arriver le 15 décembre et il meurt le 25 novembre, donc 20 jours avant son départ pour Paris. Alors, certains gens pensent qu'il aurait été trucidé. C'est vrai qu'il était cardiaque, mais à un moment donné, il est étouffé. Sa femme, Yulia Sentseva, se jette sur lui. Elle prend une paire de ciseaux, commence à lui enlever le col. Et il était trop tard. Quand on l'a emmené à la clinique, il était déjà froid. Donc, quelqu'un qui meurt à l'âge de 63 ans, c'est quelqu'un quand même qui a obtenu le prix Lénine, le prix Staline, le prix du drapeau rouge, etc., qui était adulé. Enfin, moi, mes collègues parisiens de diverses cinémathèques me parlent en bien toujours de Alexandre Dojenko. Bon, c'est notre, je ne sais pas, je pourrais dire, c'est notre Renoir, j'allais dire ukrainien. Voilà. Et malheureusement, le film que nous, à partir de ce film-là, donc Ivan, toute la carrière de Dojenko va basculer dans le néant. Donc toujours la propagande, alors qu'auparavant il avait fait de très très beaux films, très impressionnistes, très bucoliques sur cette Ukraine d'antan, cette Ukraine même récente, mais toujours avec de très très bons opérateurs. Les opérateurs ukrainiens ont été formés surtout par les opérateurs allemands, donc l'optique très très bonne. C'est grâce aux Français qu'on a eu en Ukraine un cinéma de mensonges. Je vais vous dire pourquoi. Tiens. Alors ça se passe en Ukraine centrale, ça se passe en 1897, et dès 1896, les frères Lumière envoient leurs opérateurs partout en Europe et dans l'Empire russe. Donc il y a un directeur qui s'appelle Jean Grunwald, qui se trouve à Moscou, et qui se dit, mais oui, mais il faut quand même aller en Russie méridionale, comme on appelait l'Ukraine à l'époque. Et donc, il envoie quelques opérateurs. Et parmi eux, il y avait un opérateur qui s'appelait Félix Mezgich, grand-père du comédien actuel, et qui, un jour, arrive dans le centre de l'Ukraine, à Jytomyr. Et au même moment se déroule le procès du capitaine Dreyfus en France. Et l'Ukraine centrale est très réputée donc d'avoir une grande communauté juive. C'était, quand on a fait les pogroms en Ukraine, quand les nazis ont beaucoup éliminé les Ukrainiens, c'était surtout dans cette région-là. Et les gens disent, mais vous nous montrez des films sur le couronnement du tsar, parce que les opérateurs français prenaient donc... filmer tous les événements importants et les montrer donc à la population. Il dit, mais vous ne nous montrez pas le film sur le capitaine Dreyfus. Alors que fait à l'époque Félix Mezgich? Eh bien, il a à sa disposition 36 bobines, des petites bobines, hein, des frères Lumière, donc montre un peu le monde entier, tous les continents réunis. Alors, il imagine un défilé militaire avec, à la tête d'une section, un capitaine. Un autre plan, ben, il va le trouver dans une vue sur Paris. Il prend une grande rue avec, au fond, un grand immeuble. Je pense que c'était l'Assemblée nationale. Après, il nous montre un bateau qui quitte le port et puis le delta du Nil. Et c'est ainsi qu'il reconstitue le procès du capitaine Dreyfus. C'est-à-dire, au départ, ben, on voit effectivement Dreyfus défiler devant un truc. Après, ben, les gens s'imaginent que c'est le tribunal où s'est déroulée donc la condamnation. Eh bien, on emmène le capitaine Dreyfus sur un bateau, et puis il arrive quelque part là-bas, à l'île du Diable. Et les gens, effectivement, ont cru. Mais bon, ça a duré un certain moment, à tel point que, eh bien, écoutez, 20 ans plus tard, il y aura un grand réalisateur russe, lui, Lev Kuleshov, qui inventera un système dit l'effet Kuleshov, c'est-à-dire on prenait un acteur, on le mettait devant une assiette pleine de soupe, on montrait un cercueil et on prenait un enfant. Et l'image de cet acteur était inexpressive. Et en superposant les images, on arrivait à montrer aux gens la faim, la tendresse et la pitié. Donc on joue effectivement le cinéma. Le cinéma, c'est l'art du mensonge, effectivement. Le théâtre aussi, peut-être dans une moindre mesure. Mais alors, s'il y a l'idéologie qui vient s'y mettre, ça fait très très mal. Et je vois que les gens de ma génération en Ukraine, par exemple, les jeunes réalisateurs, aujourd'hui, eh bien, pratiquement tous sont arrivés à obtenir de la nouvelle technologie. C'est-à-dire, côté caméra, côté studio, pratiquement, ils sont rentrés dans le rang. Simplement, ce qu'il leur manque, c'est l'expérience. L'expérience qu'ont effectivement les grands réalisateurs, ou celle de la jeune génération, ici en Europe occidentale ou dans le monde entier. Eux ne l'ont pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette grande coupure entre le début de la perestroïka en 1986 et 1991, donc l'indépendance. Et c'est là où les écoles de cinéma, où les studios de cinéma ont fermé parce qu'il y avait un changement, c'est-à-dire que le Parti communiste, le ministère de la Culture, ne s'occupait plus du tout donc du destin ni de la cinématographie ni de ces jeunes metteurs en scène en herbe. Aujourd'hui, on revient petit à petit, mais il faudra au moins 2 à 3 générations avant donc de recouvrer une cinématographie nationale plus ou moins viable. Eh bien, du scénario, de l'écriture du scénario, puisque lorsqu'on présente un film aujourd'hui à n'importe quel festival, c'est toujours entre 1h10 et 1h15. Alors que, bon, on demande au minimum entre 35 et 1h40. Ou alors, c'est un film fleuve, 2h40. Un grand réalisateur ukrainien qui s'appelle Yuri Ilyenko a présenté il y a 4 ans de cela un film sur un grand hetman de l'Ukraine qui s'appelait Mazepa. Mazepa, qui est connu en France par Delacroix, par Voltaire, etc., eh bien, a fait un film qui a duré 2h50. On lui a demandé au Festival de Berlin de le présenter en version courte, il ne l'a pas voulu. Et c'est ainsi qu'il a, bon, il n'a pas pu espérer décrocher l'ours blanc d'argent. Voilà. Non, ça, c'est pour te répondre à une question. Du scénario.
Le problème c'est le lien du cinéma à quelque pouvoir que ce soit. Par exemple, aujourd'hui, dans les films, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un article sur le cinéma américain. Donc aujourd'hui, quand on sait que ce sont les pouvoirs économiques, donc des multinationales comme il y a Vivendi qui a racheté les studios, je ne sais quel studio, etc. Donc il y a des multinationales qui rachètent les studios et qui imposent à l'intérieur des films et sur l'écriture des scénarios des choses invraisemblables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scénaristes sont obligés de travailler en prévoyant à l'intérieur des films sur des temps donnés, sur des manières particulières. Et ce n'est pas des grosses ficelles dans les films soviétiques, mais des endroits où fonctionnent certains types. Et ça va jusqu'à des... Ça va loin parce que là, dans cet article-là, le gars qui écrivait disait que ces multinationales aujourd'hui travaillent avec leur intervention dans le domaine de l'image, travaillent avec des scientifiques sur les questions des neurosciences pour arriver à placer à des endroits donnés des choses particulières qui relèvent, on ne dira pas directement d'une idéologie, mais qui relève de d'une volonté de manipulation sur les masses. Et aujourd'hui, ça se fait de façon très subtile et de façon scientifique. Et un jour, peut-être, on démontrera ça et on verra que les grosses ficelles qu'on peut voir dans le film de Dovzhenko avec des cadrages particuliers pour mettre en valeur l'ouvrier,
monumentalisme,
en fonction d'une idéologie particulière, peut-être qu'on démontrera dans 50 ans des films aujourd'hui où il y a une véritable manipulation beaucoup plus, encore plus sordide,
subtile,
beaucoup plus subtile, beaucoup plus sordide et beaucoup plus cynique. Et qui montrera comment on a mis en. Comment peut-être, si je pose une question, on arrive à mettre en esclavage des populations entières par rapport à la consommation, par rapport à des styles de vie. Et voilà, donc c'est pas. C'est ce qui peut être intéressant quand on voit ce type de film. On se dit, oh là là, quel monde! Mais on devrait se questionner sur aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que bon, tout a bien évolué, les techniques et les sciences ont beaucoup évolué. Et puis, alors qui se questionne et puis comment arriver à se questionner aujourd'hui pour arriver à déceler ce qui passe chez nous quoi, en ce moment et dans le monde occidental. Parce que bon, on a beau dire, parce que là, il y avait encore l'avantage, c'était il y avait d'un côté un monde qui était considéré comme le monde de la liberté. À un moment donné, bon, quand tout ça s'écroule à l'Est, on dit, voilà, ah oui, là-bas, c'était la dictature, ici, c'est la liberté. Bon, c'est facile, ça. Mais c'est pas si simple que ça, quoi. C'est beaucoup plus complexe. Quoi.
Le rouleau compresseur américain, il est très, très loin, actuellement. Hein. Donc, il est en Russie, il est en Ukraine. Vous allez dans un complexe multisalle, par exemple, en Ukraine. Actuellement, il y en a plus ou moins 65. C'est déjà aussi, puisqu'il y a la Renaissance. Hein, d'un côté, pour aller au cinéma, bon, il faut que les places soient, je veux dire, les fauteuils soient agréables, il faut que la salle soit chauffée. Donc, c'est tout un système qui s'est mis en place. Oui. Et donc, le rouleau compresseur américain, c'est 98 films sur 100. Même la production russe en Ukraine a très très peu de place sur les écrans des salles de cinéma en Ukraine. Ne parlons pas aussi donc du cinéma ukrainien. Le cinéma français est très très peu représenté en Ukraine. Unifrance Film, je crois, essaye d'organiser en Ukraine, et plus exactement à Kiev, des festivals, mais il y a très très peu de preneurs, je veux dire de distributeurs en Ukraine qui distribuent les films français. Et pourquoi ? Parce que lorsque l'Union soviétique s'est complètement désintégrée, il y a eu la mainmise d'ex-grands boss du Parti communiste qui se sont reconvertis donc, dans la distribution de films et qui, tout de suite, avec les Américains, donc on conclut des contrats, mais pour des dizaines et des dizaines d'années. Et on essaye aujourd'hui, sur ces territoires, et même en Russie, de saper, effectivement, ces circuits, parce que ça englobe des millions de kilomètres carrés. Et la renaissance, aujourd'hui, du cinéma russe, qui commence à être assez fort, hein, ils font quand même plus de 200 films par an, alors qu'en Ukraine, c'est 6 ou 7. Hein. 200 films en Russie, ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a un spectateur. C'est que le prix du billet est abordable. Donc, d'un côté, il y a ces Américains, mais il y a cette renaissance donc, du cinéma russe qui, lui, s'approche progressivement de nos normes européennes. Voilà. Les Russes sont très, très présents un peu partout hein, dans les festivals de par le monde. L'Ukraine, malheureusement, pas. Parce qu'elle n'a pas les talents, parce que le scénario, c'est le talon d'Achille du cinéma ukrainien. C'est vraiment. D'ailleurs, on le constate ici, hein, au niveau, j'allais dire, du déballage de ce scénario directement sur la table de montage. On sent, bon, c'est vrai qu'il y a eu la censure, mais c'est pas fluide. On le sent.
C'est-à-dire qu'on arrive à se demander à des moments si on n'a pas raté quelque chose.
Voilà. Et alors, bon, on peut On peut pardonner à Dovzhenko parce qu'effectivement, il passe du muet au cinéma parlant. Donc, c'est une technique assez difficile. Et pourtant, c'est un cinéaste qui est très, très original. Donc, vous avez très bien vu au départ, il y a eu une scène improvisée lorsque les deux Kolkhoziens qui se retrouvent, donc une séance de rire qui est vraiment très réussie, hein. Ah, je veux dire, l'improvisation chez ce cinéaste était vraiment très très originale et inédite à l'époque. Eisenstein, Pudovkin, Donskoï, tous les autres réalisateurs improvisaient très très peu, alors que Dovzhenko laissait l'acteur s'exprimer devant la caméra. Donc il y avait une certaine forme de liberté, pardon. Oui. Il y avait une certaine forme de liberté et quelque part, Dovzhenko avait une certaine marge puisqu'il y avait la censure. Donc, après, avec les chutes, il pouvait un petit peu rattraper, si vous voulez, donc le sujet en lui-même. Mais malheureusement, il faut quand même pas oublier qu'à la sortie de la copie zéro, c'est-à-dire la copie zéro, c'est celle qui sort donc de la table de montage et qui est montrée à la censure, eh bien, en Ukraine, il y avait 17 instances qui devait d'abord voir le film, le juger, pour après l'envoyer au PC ukrainien, qui lui-même va l'envoyer à Moscou. Et c'est Moscou qui donne donc l'autorisation, enfin le visa d'exploitation du film. Donc vous imaginez que pour des films qu'on appelle industriels, qui après vont se transformer en films de défense, dans les années 35-40, on fera beaucoup de films relatant l'espionnage russo-japonais, américain. Donc on se préparait à la guerre déjà. Eh bien, tout cela donc était visionné par 17 instances. C'est-à-dire qu'il y avait des Kolkhoziens tout simples. Ils lettraient, on les mettait devant l'écran et ils donnaient leur appréciation. Les ingénieurs, les académiciens, l'armée bien sûr, le NKVD, l'église même. Il y avait son rôle. Ben oui, puisqu'elle existait quand même, cette église. Donc, une fois qu'on a passé ces 17 instances...
La seule qui était d'État, parce que c'était carrément des
catacombes. Voilà, en plus. Voilà, donc... voilà. Donc, une fois sorti de ce traquenard, le réalisateur pouvait respirer. Eh bien, Dovzhenko, curieusement... Il a passé la famine en Ukraine. Il n'a pas été fusillé. Il n'a pas été envoyé au goulag. Pourquoi ? Et on se le demande encore aujourd'hui. Eh bien, on dit souvent qu'il était surveillé par sa propre femme. Dovzhenko s'est marié une première fois en 1925 avec une pauvre jeune paysanne avec laquelle il a eu un fils. Et ce n'est qu'en 1928, lorsqu'il est vraiment devenu un grand cinéaste, qu'on dit, bon... Le GPU de l'époque a poussé l'actrice principale d'un de ses films, donc d'essayer de le persuader, donc de se marier. Et effectivement, on a détruit le premier acte de mariage de Dovzhenko. Et Dovzhenko s'est répandu, je ne sais plus, une vingtaine d'années après, car sa femme vivait encore. Et lui envoyait toujours un peu d'argent, un peu... Pendant la guerre, il envoyait même un peu de l'art, puisque l'art est très très important dans ces pays-là. Quand il fait froid, l'art, ça tient au corps. Voilà. Donc c'est un type qui a beaucoup souffert, mais d'un autre côté, il était protégé. Il avait toujours une bonne étoile, mais il devait se vendre. À chaque fois, il savait qu'il était haï par les intellectuels ukrainiens, qui, eux, étaient des nationaux communistes, voire des nationalistes, parce que... Pardon ? Et aujourd'hui aussi, d'autant plus. Voilà, le problème agricole aujourd'hui, c'est une... L'Ukraine d'aujourd'hui, bon, on dit les terres noires, c'est les terres les plus fertiles d'Europe, mais qui dans 30 ans, moi je pense que l'Ukraine dans 30 ans, ou même peut-être avant, peut devenir un pays pilote en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on va passer à l'alcool. Tous ces kolkhozes qui ont été abandonnés aujourd'hui, ça va revenir très très vite, on va rouler au vert. Le pétrole, bon, que l'on paie très cher, bon, Pardon ?
Pour le drapeau vert, c'est pour voir ce qu'il veut.
Pourquoi ?
Parce que pour faire rouler les voitures qui roulent actuellement sur Terre, si on voulait faire ça avec des agrocarburants,
oui.
Il faudrait en gros planter l'équivalent de 1,5 à terre. Là, on ne pourrait plus manger.
Oui, mais je pense qu'il y aura des terres. Oui. C'est ça. On n'en sait rien. En tout cas, l'Ukraine a vraiment beaucoup de. C'est très très riche, hein, je veux dire. Tout à fait. Tout à fait. Et donc. Tout à fait. Et il y aura une nouvelle loi qui devrait passer justement sur l'appropriation des terres à partir du 1er janvier, dit-on. Mais ça, il faut d'abord avoir un Premier ministre qui ne sort toujours pas. Hein, parce que. Voilà. Mais non, ça, c'est de la comédie. C'est du mensonge, puisqu'on a besoin de se faire photographier devant les photographes, les télévisions du monde entier, et que la révolution orange continue. Elle continue, la révolution orange. Voilà. Oui, elle continue, bien sûr, dans les esprits, surtout, parce que cette révolution a surtout changé les esprits chez les jeunes. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient une conscience nationale. C'est clair. Vous imaginez qu'en France, un jour, si on était occupé pendant plus de 100 ans par les Allemands, on n'aurait pas le droit de parler français. Je ne pense pas que, hein, même les, comment dit-on, les malgré-eux, d'Alsace, comment les appelait-on là ?
Les malgré-nous.
Les malgré-nous, voilà. Bon, on pourrait effectivement essayer de faire une comparaison aujourd'hui avec cette Ukraine. Non, la révolution orange a révolutionné les esprits et je dirais même que les deux partis, orange et bleu-blanc, se sont donné la main parce qu'ils se regardaient, ils s'observaient, ils ne se connaissaient pas. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu l'Ukraine occidentale qui est très très riche, donc qui livre le bois pour les mines du Donbass, etc. Une sorte de catalyseur justement de cette conscience nationale. Et quand on l'envoie, effectivement, ces Ukrainiens russophones, dire aux journalistes occidentaux que nous ne sommes pas russes, nous sommes ukrainiens, mais nous parlons russe. Pourquoi ? Parce que ça a été russifié pendant plus de 300 ans. Donc ils se sentent vraiment ukrainiens, même s'ils ont à la tête un gouvernement, pro-russe. Mais ce qui est normal, parce que nous sommes obligés en Ukraine de commercer avec les voisins. C'est clair. On commerce autant avec l'Occident qu'avec les pays de la CEI, mais ce dont effectivement les Russes ont peur, c'est que le président Yushchenko ne s'allie vraiment donc à cette Europe occidentale, en commençant par rentrer dans l'OTAN, tout en attendant, voilà, puisque la Pologne est déjà là, et tout en attendant, oui. Et la réaction des Russes, moi je la comprends finalement.
Hein. On les comprend.
Mais bien sûr, on les comprend. Ils ont des missiles maintenant, c'est déjà en Tchéquie, en Pologne. C'est vrai qu'on a eu un régime dur avec Poutine. Bon, celui qui va arriver va être peut-être un peu plus flexible, on n'en sait trop rien. Mais effectivement, je veux dire que l'Ukraine est un pays stratégique autant pour cette grande masse de la Russie qui est restée encore avec ses terres sibériennes et l'Europe occidentale. Voilà.
Quel était l'impact de ce type de film
à l'époque ? Alors,
à l'intérieur et à l'extérieur.
Voilà. Alors, ce film a été présenté au Festival de Venise, mais par épisode. Au Festival de Venise, donc, par épisode, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Et puis il y a toujours la censure. Et n'oubliez pas qu'il travaillait en 32. Hein. Et le film devait être livré pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre.
En quelle année ?
32.
Ah oui,
32. Donc il a fait ce film, il a commencé au mois de mai. D'ailleurs, on le voit très bien, le Dniepr, hein, les berges en fleurs, ça on le devine très bien. Et donc en 6 mois, il l'a fait. C'est le film qui a été réalisé, je veux dire, en un temps record à l'époque. Bon, Et il a été présenté au festival de Venise, donc il y a eu quelques épisodes, et à l'époque, bon, c'était très très rouge les Italiens, hein, donc pareil qu'il a été très très applaudi, les cinéastes se sont levés, etc. En Ukraine, il a été effectivement montré dans toute l'Ukraine, toute la population, et comme c'était un film de propagande, on a gonflé les chiffres, c'est-à-dire le nombre d'entrées. Hein, en général, un film à l'époque fait 3,5 millions d'entrées. 3,5 millions d'entrées en 1932, c'est déjà pas mal. Hein. On n'a que 600 salles de cinéma à l'époque. Voilà. On a critiqué ce film parce que Dovzhenko... Au total. De spectateurs payants. Non, à l'Ukraine, parce qu'on m'a posé la question ukrainienne. Voilà. En France, il a été interdit, vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait un gouvernement de droite qui refusait tous les films soviétiques qui avaient une connotation idéologique assez forte. Et c'était le cas, en plus. Bon, voilà. Parce qu'on pouvait voir les Bateliers de la Volga, là, d'accord, ou un Michel Strogoff, ou tout ce que vous voulez, mais surtout pas ça. Et d'ailleurs, ça ira jusqu'en 1900. Ben, c'est grâce à Henri Langlois qu'on a commencé à voir les films soviétiques. Et après, il y a eu une convention de fait entre l'URSS et la France en 1947 ou 8, où effectivement, on a pu voir donc tous les films soviétiques en France. Voilà. Et alors, Dovzhenko n'a jamais aimé son film. Il avait dit, si je ne devais pas faire de film, hein, dans ma carrière, ça aurait été probablement celui-là, parce qu'il était d'abord complètement démotivé. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Lorsque Staline et Dovzhenko se promenaient dans les allées du Kremlin, le double jeu, alors Dovzhenko pensait au suicide. Ah, il dit « tu es mon ami », c'est pas vrai. Il savait très très bien qu'il pouvait le trucider. Et à un moment donné, il pensait au suicide. Il pensait au suicide à tel point que pendant la prise de vue d'une scène où un nationaliste devait tirer sur lui, parce que lui jouait un rôle comme de temps en temps Hitchcock dans ses films apparaît, il a voulu apparaître dans un épisode, et l'artificier a glissé une vraie balle. Attention, je vous raconte pas de légende. Hein, je l'ai écrit dans mon histoire. Il a glissé une vraie cartouche dans le barillet du pistolet qui était pointé sur lui, et le soldat a tiré, il l'a raté. Alors on ne sait pas. Hein, c'est très difficile aujourd'hui. Alors les archives d'Ovzhenko vont être ouvertes en 2009, puisque sa femme, quand elle est morte en 1990, a dit qu'il fallait donc attendre, je ne sais plus combien, 18 ans avant qu'on ouvre donc son coffre, et où on verra effectivement toute sa correspondance. Alors allons-y. Allons-y. Ah oui, il faut chanter là. Alors d'accord. Bon ben voilà. Oui. On y va.
Quand on replace le cinéma français dans le contexte des années 30,
donc, ouais.
Là, évidemment, bon, il y a des choses fortement symboliques, des choses qui relèvent de l'art dans ces films-là, sur la forme. Il y a des choses bon, par exemple, je ne sais pas si tout le monde a vu, c'est pas n'importe quoi. Ça a un sens profond en Ukraine parce que ça veut dire Jacques.
Jacques, oui. En France, ça correspond.
C'est-à-dire ouais. Les Jacques, c'est-à-dire que ce sont les paysans.
On dit Ivan, voilà.
C'est un paysan, quoi. Ouais. C'est le simple, c'est pour ça.
C'est le simple, ouais.
Et puis, donc, il y a des choses comme ça qui fonctionnent au niveau symbolique. Mais dans le cinéma français de l'époque, il y avait quand même toute la période réaliste, tous ces films où on voyait le peuple, quoi. Et bon, est-ce qu'aujourd'hui, on voit le peuple au cinéma? On peut se poser des questions, c'est-à-dire dans la majeure partie des films, dans tous les films que voient les gens, est-ce qu'on voit le peuple tel qu'il vit? Alors que là, qu'on le veuille ou non, et même s'il y a une forte emprise idéologique, on voit quand même des choses qui relèvent du travail, des gens qui suent, des gens qui mangent leur soupe, et quand on regarde comme ça en arrière-plan ou quand on regarde dans le détail, il y a des aspects de la vie de l'époque et puis qui ne sont pas des aspects reluisants. Hein.
Bien sûr.
Mais n'empêche qu'on arrive à choper.
C'est
des
de l'ethnographie.
Le béton est fait, on
voilà.
a des grosses caillasses.
Tout à fait.
Moi, je me suis dit, tiens, le béton, il était assez grossier. Là. Et, mais donc, dans les années 30, en France aussi, il y a cette tendance à montrer le peuple tel qu'il vit. Mmh. Et aujourd'hui, au cinéma, ben, on ne montre pas le peuple, on montre une espèce de classe. Bon, je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais.
C'est des gonzesses un peu particulières, un monde qui semble très détaché de la vie ordinaire, quoi, de la vie des gens.
C'est vrai.
Un ouvrier ou un paysan dans un film français, c'est sûr. C'est quand même parfait. Quand...
Ouais, voilà. On avait ça encore dans les années 70, on avait ça. Hein.
Et donc, si là, c'est marqué fortement idéologiquement, mais aujourd'hui, quand on réfléchit, on se demande si idéologiquement, c'est pas... Les films sont aussi marqués idéologiquement, on s'en rend même plus compte.
Oui.
Tout à l'heure, vous avez parlé de ce film-là.
Oui.
C'était un plan de transformation dans la création, dans l'art de Zinchenko. Alors pour vous, est-ce que c'était quelque chose de personnel
Non, c'était pas personnel.
Forcé,
oui, tout à fait. C'était pas personnel du tout, puisqu'il voulait faire le Taras Bulba de Gogol, que aujourd'hui encore les Ukrainiens n'ont pas pu réaliser, puisque bon, Gogol, c'est un écrivain ukrainien, mais qui devait écrire en russe, parce qu'à l'époque l'écriture ukrainienne était interdite par le tsar. Donc Dojenko veut faire Taras Bulba, on lui dit non. On dit, il y a un sujet, un film industriel, tu le fais. Donc c'était coercitif. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, il a toujours regretté d'avoir fait ce film. Puis il y a eu encore un autre qu'il a regretté à la fin de sa vie. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps, l'Ukraine crevait de faim. Il y a eu ce grand génocide. Il dit, mais comment j'ai pu tourner ce film alors que ma nation entière était en train de souffrir. Et ce qui est très, très curieux, c'est qu'à la fin de ce film, bon, pour clore la discussion, il est tellement dégoûté, il part faire une cure au Caucase. Et après 2 mois de cure, il rentre en Ukraine et il n'y a pas de frontière, hein, mais il y a des frontières administratives. Et il rentre, et à la frontière ukrainienne, avant juste de rentrer donc dans cette région... ukrainienne, il y a un gars de la GPU qui le reconnaît, hein, donc Dovzhenko, en tant que réalisateur, il lui dit, ne rentre pas à Kiev puisque tu vas être arrêté. Prends le train qui va vers Moscou. Et c'est vrai que toute l'élite ukrainienne intellectuelle de l'époque allait faire ses mea culpa chez Staline, à Moscou. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler mieux à Moscou, ça c'est vrai. On était plus protégés, il y avait une culture qui était un peu plus accessible à des créateurs, et là, Dojenko a pris le train, et donc est allé voir Staline, qui lui a dit, bon, ben, maintenant tu te calmes, tu fais plus de nationalisme dans le cinéma ukrainien, je vais t'envoyer en Sibérie, et tu vas tourner un très beau film, qui s'appelle Aérograd, un très très beau film. Et donc, Dojenko a été conspué aussi par ses pairs, après, ils lui ont dit, mais pourquoi es-tu allé... agenouillé devant Staline en 1933 à Moscou. Ça, c'est, je pense que c'était ou le destin, mais aussi je pense qu'il a été peut-être protégé par un esprit venant d'ailleurs, une force extraordinaire, et il a continué à faire de très très bons films, hein, parce que c'était quand même un réalisateur qui était très très apprécié, non simplement en Union soviétique, mais en Occident. Donc, ce double jeu, ce destin fait que ben, vous ouvrez aujourd'hui n'importe quelle encyclopédie de cinéma et vous trouvez Dojenko. Mais il y a beaucoup de choses à changer, puisque nos historiens français et occidentaux, et américains et hollandais, étaient en général, sous l'influence idéologique rouge, trotskistes, stalinistes, etc., etc. Mais ce n'est pas de leur faute, puisque c'était le GPU, le NKVD, qui donnait déjà au niveau des festivals des informations erronées. Quand je parlais tout à l'heure de mensonges, à partir de l'œil de la caméra qui filme, eh bien ça va jusque dans les flyers distribués dans les, dans les marchés du film. Donc il faut faire très très attention à cette période soviétique qui est de nouveau réécrite. Elle est de nouveau réécrite par des historiens. Moi-même, je suis l'auteur de la première histoire du cinéma ukrainien jamais publiée au monde, dans le monde. Je l'ai écrite en français et elle a été publiée il y a deux ans de ça en Ukraine, en ukrainien. Voilà, donc j'ai quand même remis en place ce qui n'a pas été dit, mais à partir de ma sensibilité et philosophie occidentale, parce que je suis moi-même d'origine ukrainienne, mais je suis avant tout français. Je veux dire, intellectuellement, je suis français. Mon âme est peut-être ukrainienne, ma sensibilité peut-être un peu slave, mais avant tout, je veux dire, nous avons beaucoup de choses, nous, occidentaux, à dire et à apprendre aux Slaves, donc à rectifier le tir.